Je me réjouis d'être à nouveau parmi vous, d'être dans la maison, de retour dans la maison. Après toutes ces dernières semaines de déplacements, de voyages, en tout cas, je voudrais d'emblée vous dire un grand merci pour vos prières qui m'ont accompagné, pour vos mots d'encouragement également que j'ai reçus ici ou là. Cela me fait mon courage, me fait aussi du bien, et je vous remercie du fond du cœur. J'aimerais que maintenant lire la parole de Dieu avec vous. Nous poursuivons notre méditation sur l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur les versets 7 à 11 du chapitre 5 de l'épître de Jacques. 7 à 11 du chapitre 5 de l'épître de Jacques. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je me dis, puisque ces derniers temps, je n'arrêtais pas de me déplacer, donc je vais essayer de vous faire part un peu de ce que j'ai entendu ici ou là, mais soyez rassurés, ce n'est pas un résumé de ce que j'ai entendu que je vais vous dire, que je vais vous faire, mais de temps en temps quand même, je ferai allusion ici ou là à certains événements. Et tout particulièrement, dès le début de cette semaine passée, vous savez, c'était la rencontre du séminaire Évangile 21 à Genève, un séminaire qui a rassemblé, si ma mémoire est bonne, plus de 700 participants, dont de nombreux pasteurs et responsables d'église, un séminaire auquel notre frère Henri Blocher a apporté une contribution avec son collègue ami Donald Carson, des contributions extraordinairement bonnes et qui ont fait vraiment beaucoup de bien au peuple de Dieu rassemblé. Le thème de ce séminaire, et c'est sur ce point que je veux revenir, c'est le destin qui nous attend. Ce destin qui nous attend sera inauguré par le retour de notre Seigneur, et à son retour, il nous conduira vers la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Lors de ce séminaire, la dernière conférence justement de Donald Carson portait sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Dans les versets que nous venons de lire de Jacques, Jacques nous invite à ne jamais oublier cette réalité à venir. À ne jamais oublier cette réalité à venir. C'est une certitude. Le Seigneur vient. Face aux difficultés, face aux épreuves rencontrées, Jacques nous invite les chrétiens à attendre avec patience l'avènement du Seigneur. Dans les versets qui précèdent, Jacques a pris le temps de parler aux riches, notamment des riches qui exploitaient les pauvres, et il a été dur à leur égard. Et nous avons eu un message sur ces passages. Et à partir de verset 6, Jacques maintenant tourne le regard vers ceux qui souffrent entre autres à cause de l'injustice de ces puissants ou de ces riches que ces riches leur imposaient. Parmi ces épreuves, bien entendu, il y a la persécution Et là encore, j'aimerais faire allusion à un événement important au cours de ces deux derniers jours auquel notre pasteur a participé, M. Blocher, et aussi des frères et sœurs comme Edith et Michel Patin. C'est le colloque de la faculté de Vaux-sur-Seine, là qui porte sur la persécution. Le thème, c'est l'inévitable chemin de la persécution. En effet, face à la persécution, nous avons là une source de consolation que Jacques nous laisse garder les yeux, attendre avec patience, même face à la persécution, face à cette épreuve-là, attendre l'avènement du Seigneur. Mais nous pouvons recevoir cet appel à la persévérance, à la patience aussi lorsque nous traversons des moments, des épreuves, des moments difficiles, des épreuves diverses et variées. Ici, Jacques ne précise pas qu'il s'agit explicitement de la persécution, même il en est un peu question aussi, mais il s'agit des épreuves aussi de la vie. Vous aurez des tribulations dans le monde, nous dit Jésus à ses disciples avant qu'il monte au ciel, c'est dans Jean 16. Et l'apôtre Paul ne dit pas moins lorsqu'il a fondé les premières églises lors de son premier voyage missionnaire. Et à la fin, en les exhortant, il leur dit, mais écoutez, vous savez, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien que nous soyons avertis à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament par le Seigneur, par ses apôtres, il nous arrive parfois de nous laisser accabler par les situations, à ne plus regarder au point de ne plus regarder, de ne plus voir au-delà du bout de notre nez, à ne plus voir ce destin qui nous attend. Les difficultés que nous rencontrons dans la vie peuvent être tellement difficiles, exigeantes, comme le témoignage que nous venons d'entendre, que cela peut nous faire tomber simplement, nous bloquer même la vue et de ne pas regarder au-delà de l'épreuve. Ces épreuves peuvent nous empêcher non seulement de voir au-delà du bout de notre nez, mais aussi elles peuvent carrément nous aveugler complètement et nous faire perdre de vue les points les plus fondamentaux de notre foi chrétienne, à savoir le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La maladie, les difficultés familiales et parfois les difficultés aussi au sein de l'Église, les difficultés au travail, les pressions dans la société, les conflits dans le monde, bien des difficultés, des épreuves de la vie peuvent nous faire plonger, peuvent nous pousser à ne pas voir au-delà du tunnel, à ne pas voir le bout du tunnel. Jacques nous invite à porter notre regard non seulement au-delà du bout du tunnel, mais aussi il nous invite à regarder simplement au retour de notre Seigneur et à regarder, mais dans la patience, à attendre cet avènement de notre Seigneur. C'est ce que j'aimerais souligner ce matin, une certitude, et vous donner trois exhortations. D'abord, la certitude. Le Seigneur vient. C'est ce que Jacques nous dit ici sans aucune ambiguïté. Il y a aussi de nombreuses autres promesses dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous invitent, qui nous rappellent que le Seigneur vient. Même s'il tarde, il vient. Dès l'ascension de Jésus, les anges indiquent aux disciples de Jésus que Jésus reviendra de la même manière qu'il a été enlevé du milieu d'eux, dans Acte 1. Plusieurs termes dans le Nouveau Testament sont employés pour nous rappeler, pour nous dire que le Seigneur revient, que le Seigneur vient et que cet événement à venir est une certitude. Le Nouveau Testament emploie bien sûr le terme de la venue du Seigneur ou la parousie du Seigneur Jésus, cette parousie qui exauce justement cette prière souvent formulée dans le Nouveau Testament, « Maranatha, Seigneur, viens ». Le Nouveau Testament parle de l'apparition du Seigneur Jésus ou encore de la révélation du Seigneur Jésus. Et Jésus est le premier même à parler de ces événements, à parler de son retour lors de son dernier, cinquième et dernier discours, dans ce grand cinquième et dernier discours de l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et 25 et dans les passages parallèles. Cet événement sera précédé par des signes, et non pas par des signaux, comme M. Blocher l'avait souligné aussi lors de sa conférence, mais aussi ça a été souligné dans son manuel de doctrine du Christ. Cet événement du Christ sera spectaculaire, nous dit Jésus. Les chrétiens dans l'affection, les chrétiens dans l'épreuve, les chrétiens dans la joie, les chrétiens dans l'allégresse ne doivent jamais oublier cette vérité évangélique. Le Seigneur vient. Nous ne savons pas quand, personne ne sait l'heure, mais le Seigneur vient. Malheureusement, nous oublions cet enseignement si important pour le Nouveau Testament. Un commentateur écrit, puisque nous avons aussi parlé de la persécution, je le cite, « Plus qu'une église est persécutée, plus elle a hâte de voir le Seigneur Jésus revenir. » Et inversement, l'église riche, complaisante et charnelle s'intéresse peu à l'avènement du Seigneur. Nous n'avons pas à attendre des moments difficiles de la persécution, puisque la question a été même posée au colloque, pour nous attendre consciemment, volontairement, activement au retour de notre Seigneur. Nous n'avons pas à attendre les épreuves, la persécution, pour réfléchir, pour méditer et marcher à la lumière du retour de notre Seigneur Jésus. La venue du Seigneur est une certitude et nous sommes invités à tirer toutes les conclusions nécessaires pour aujourd'hui, pour notre vie de tous les jours. Ne jamais oublier cela, ne pas laisser les richesses, ne pas laisser les soucis de ce monde dicter notre vie ou tout simplement nous empêcher de prendre des décisions, de vivre notre vie d'une manière consciente. Ne laisser tout simplement laisser ce monde, la pression de travail et autres, nous emporter. Nous devons faire silence dans notre cœur, dans notre pensée, jour après jour, pour nous dire, il y a des priorités, il y a celles qui dépassent toutes les autres. Jacques nous laisse cette certitude, le Seigneur revient. Et il nous donne quelques exhortations, je ne les mentionne pas toutes, mais j'aimerais relever simplement trois exhortations. La première, patientez, c'est au verset 7, ça revient au verset 8. Face aux épreuves, les chrétiens peuvent perdre courage ou vouloir que les choses aillent plus vite, plus rapidement que prévu par le Seigneur. Lorsque les promesses du retour du Seigneur sont là, sont fortes, lorsque l'épreuve est là et exigeante, bien sûr la persécution, mais aussi les autres épreuves de la vie, il est certain que ce qui est facile pour nous, c'est de dire « Seigneur, mais jusqu'à quand ?» Mais d'autres fidèles l'ont dit aussi, l'ont fait face au mal. Habacuc, dans tout son livre, est consacré à cela. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Dans le livre de l'Apocalypse, cette prière, jusqu'à quand, Seigneur? C'est tellement dur, c'est tellement difficile. Jacques nous répond, patientez, patientez. Et pour faire comprendre la nécessité de patienter, d'attendre le retour de notre Seigneur, Jacques nous donne l'exemple, un exemple tiré de la vie courante de l'époque, l'exemple de l'agriculteur. Après les sommeils, l'agriculteur attend ses récoltes, il patiente pour voir le fruit pousser. Il ne peut pas récolter le fruit tout au début ou au début de la maturation. Il doit attendre jusqu'au bout s'il veut profiter pleinement de fruit. Ce fruit ne dépend pas entièrement de lui. Certes, il doit enlever les mauvaises herbes. Certes, il doit aérer la terre régulièrement pour faciliter la germination, etc. Oui, il doit faire tout cela. Mais les éléments principaux qui vont faire germer et croître la semence échappent totalement à l'agriculteur, à son contrôle. Paul indique d'ailleurs, en reprenant la même image, mais cette fois-ci en l'appliquant pour la parole de Dieu, fait comprendre que ce n'est pas celui qui plante, celui qui arrose qui est important, mais c'est celui qui fait croître, en faisant allusion, bien entendu, à Dieu clairement. En Palestine de l'époque, les pluies de la première saison arrivent à l'époque des sommeils, en automne, autour de octobre-novembre, et les pluies de l'arrière-saison viennent juste avant la récolte, c'est-à-dire autour de mars-avril. De la même manière que l'agriculteur doit attendre jusqu'à la pluie de l'arrière-saison, il ne peut pas faire des récoltes avant s'il veut avoir un bon fruit. De la même manière, il doit attendre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute avant la récolte, nous sommes invités par Jacques aussi, nous aussi, à attendre avec patience, malgré Parfois, l'impatience est justifiée, vu dans certains cas, vu la persécution, vu les épreuves. Malgré notre impatience, Jacques nous dit patientez. Patientez et attendez l'avènement du Seigneur. Il se peut que certains puissent se décourager. Comment se fait-il, le Seigneur n'est pas venu au 1er siècle, et même là, on est au 21e siècle, et le Seigneur n'est toujours pas revenu. Oui, l'avènement du Seigneur. D'ailleurs, Pierre évoque que nous aurons des gens qui vont nous dire cela. Il le dit au chapitre 3 de son épître, de sa deuxième, seconde épître, pardon, il dit au verset 3, à partir du verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise, en disant, « Oui, la promesse de son avènement !» Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous sommes bien avertis, mais nous devons faire attention à ne pas céder à ce discours. Au contraire, nous sommes invités à attendre, et la Bible le fait, Jacques ici, mais bien dans d'autres endroits, à attendre jusqu'au bout. J'ai vu une image qui est passée, je crois que c'est sur des réseaux sociaux, où il y avait quelqu'un qui creusait pour trouver un trésor. Il lui restait, je crois, le dernier coup de pioche pour arriver au trésor. Il était désespéré, il est reparti. Et vous avez un autre qui continue toujours à piocher, pourtant il lui restait beaucoup, mais il persévère. Je trouve que l'image est très belle. Nous ne savons pas quelle est la dernière pioche, quel est le dernier moment, peut-être ce soir, mais peut-être aussi dans des siècles et des siècles à venir. Ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de patienter, nous dit l'apôtre Jacques, et d'attendre. Face à la dureté des épreuves, face à la sévérité des circonstances, Jacques nous exhorte à rester patient dans l'attente. C'est une patience active, non pas passive. C'est une patience active, attente active. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Et ce que je vis aujourd'hui, c'est à la lumière de l'avènement du Seigneur. Jacques nous invite à ne pas donc nous décourager devant le délai que le Seigneur met avant de revenir pour mettre fin à toutes nos souffrances, pour mettre fin à toutes nos épreuves, pour vivre pleinement. Soyons donc patients. Jacques nous adresse une deuxième exhortation. En attendant le retour de notre Seigneur, il nous dit « Affermissez votre cœur ». C'est le même verbe qui est utilisé dans l'Évangile pour dire que Jésus est résolument décidé d'aller jusqu'au bout à la croix. C'est dans Luc chapitre 9, verset 51, lorsqu'il dit « Jésus, il a pris la décision d'une manière résolue d'aller jusqu'à la croix, sachant ce qui l'attend à Jérusalem. » Nous ne pouvons pas avoir une telle résolution par nos propres ressources. Il serait illusoire de le penser. Mais nous pouvons compter sur le Seigneur qui ne nous laisse pas seuls, sur le Seigneur qui nous accorde les ressources nécessaires, sur le Seigneur qui est là présent pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables, comme l'apôtre Pierre d'ailleurs le souligne. Et au chapitre 5 de sa première épître, il dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affirmera et vous fortifiera et vous rendra inébranable. C'est Dieu lui-même qui le fera pour nous, nous dit l'apôtre Pierre, et nous pouvons lui faire totalement confiance. Et c'est cela qui nous permet aussi de tenir parfois lorsque nous sentons que la terre commence à s'éloigner sous nos pieds. Le Seigneur nous fortifie. Il est intéressant parfois de regarder dans les moments exigeants que nous avons vécus pour nous rendre compte que c'est vraiment le Seigneur n'était pas là. Comment ferions-nous? Et parfois, nous pouvons même nous poser la question, mais comment nous avons pu vivre ce moment-là, traverser cette épreuve-là, tout en restant debout jusqu'aujourd'hui? Troisième et dernière exhortation que j'aimerais souligner se trouve au verset 10. Prenez pour exemple les prophètes. Les prophètes sous l'Ancienne Alliance ne sont pas épargnés par rapport à la souffrance. Le dernier d'entre eux, un certain Jean-Baptiste, sous l'Ancienne Alliance, un certain Jean-Baptiste a été tout simplement décapité par Hérode. L'auteur de l'Épître aux Hébreux termine son chapitre sur les héros de la foi en évoquant justement les situations extrêmes auxquelles les serviteurs de Dieu, les serviteurs de la parole de Dieu ont été exposés. Il écrit donc au chapitre 11 à partir de verset 35, « Ils ont été torturés, ils ont enduré des moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes, la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux. » ou mis à mort par l'épée. D'autres ont été menés à une vie errante, vêtus de peau de mouton, de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Il poursuit en mettant une petite phrase, il dit, « Eux dont le monde n'est pas digne. » Hébreux 11, verset 35. Jacques nous invite à regarder à l'exemple laissé par ses prophètes, par ces serviteurs de Dieu, ces prophètes, ces serviteurs qui ont fait face à la souffrance. Nous avons des exemples devant nous pour faire face à certaines épreuves et à certaines exigences de la vie. Certes, la parole de Dieu nous fournit des exemples excellents, et l'exemple par excellence est celui de notre Seigneur Jésus lui-même. Le message remarquable, là encore, de l'apôtre de pas l'apôtre, mais du serviteur du pasteur Paul Appéré, hier, lors de la clôture qui a suivi le colloque à la faculté de Vaux-sur-Seine, portait justement sur l'exemple que Jésus nous a laissé sur la base de Jean 13, un message, là encore, remarquable qui nous rappelle l'essentiel. Christ comme serviteur, un exemple que Christ nous laisse. En plus de ces exemples bibliques, nous avons aussi besoin, et c'est humain, nous avons besoin d'avoir des exemples sous nos propres yeux. Et vous savez, ces deux derniers mois, nous avons perdu deux grands serviteurs de la parole de Dieu, Alfred Kuhn le mois d'avril dernier, et Samuel Benitro dans les obsèques ont lieu hier. Deux grands serviteurs de Dieu, mais qui nous laissent deux grands exemples, des exemples remarquables pour nous donner courage de continuer. Prenons exemple sur ceux qui persévèrent parmi nous aussi. Nous avons des frères et sœurs et nous les connaissons parce que nous sommes en famille. Nous nous connaissons, qui passent par des moments difficiles, qui tiennent bon, même face à des exigences humainement parlant, nous laissent sans voix. Prenons exemple de ces frères et sœurs. Nous avons besoin les uns des autres pour tenir, pour faire face à toutes sortes d'épreuves, de persécutions, en attendant l'avènement de notre Seigneur qui va mettre fin à tout cela. C'est à cela que Jacques nous exhorte. Le Seigneur vient, il vient et il nous le dit dans la parole de Dieu à bien des reprises. Il vient bientôt. Mais en attendant le jour du Seigneur, Jacques nous invite à patienter malgré la dureté des épreuves, à affermir notre cœur pour une résolution totale, pour aller jusqu'au bout de notre course, et à prendre exemple sur les prophètes, les exemples sur les hommes, les femmes qui ont marché devant le Seigneur, aussi bien relatés dans la Bible, mais aussi dans l'histoire de l'Église, et ils sont nombreux, et dans l'histoire de notre Église, de nos frères et sœurs autour de nous. Pour terminer, Jacques écrit au verset 11, « Bienheureux ceux qui tiennent ferme. » Il cite l'exemple par excellence de l'Ancien Testament au sujet de la persévérance face à l'épreuve, c'est celui de Job. Nous connaissons l'histoire de Job, sa dureté, son exigence, son épreuve, mais aussi nous connaissons sa fin, une fin merveilleuse, merveilleusement bien finie. Mais j'aimerais vous proposer deux remarques sur cet exemple de Job que Jacques nous laisse en conclusion dans ce passage de son exhortation. La première remarque porte un peu sur le court terme. Nous devons en effet savoir que le Seigneur est le maître. Il peut intervenir quand il veut, comme il veut. Personne ne peut lui dicter la loi, ni personne ne peut le mettre dans une boîte, pour en prendre une expression utilisée là encore dans un témoignage par une étudiante. Notre sœur, son témoignage nous a rappelé que le Seigneur peut intervenir et il le fait pour nous libérer. Et nous devons donc dire toute notre reconnaissance au Seigneur pour cela, pour toutes les délivrances qu'il accorde. Mais nous devons savoir aussi et comprendre que toutes les histoires des fidèles du Seigneur ne se terminent pas bien. Parfois, le Seigneur décide de ne pas délivrer. Parfois, le Seigneur décide de ne laisser d'aller jusqu'au bout. C'est le cas de beaucoup de nos frères et sœurs au Moyen-Orient, en Afrique. C'est le cas de beaucoup de nos frères et sœurs. Parfois, qui font face à la maladie. Nous avons connu dans l'histoire de notre Église aussi, nous avons accompagné des frères et sœurs pour qui nous avons prié, nous avons supplié le Seigneur pour les délivrer, notamment face au cancer. Mais le Seigneur a choisi autrement. Nous devons développer une attitude qui fait place aussi à la souveraineté du Seigneur dans ce domaine. Mathieu Richel, lors de ce colloque à la faculté de Vaux-sur-Seine, a parlé de Daniel et d'Esther et il a posé la question. Et si le Seigneur ne délivre pas? Parce qu'il y a des moments où le Seigneur ne délivre pas. Et sur ce point, il nous a rappelé, les amis, une belle déclaration des amis de Daniel qui disait, notre Dieu, qui disait au roi, hein, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente de ta main au roi. Ils poursuivent, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer tes statues. Je soulignais les deux événements un peu importants de la semaine dernière parce qu'ils sont tous enregistrés normalement pour le premier évangile 20e, même filmés et normalement sur Internet, vous pourrez écouter toutes ces vraiment très belles contributions sur ces deux sujets intéressant et qui nous intéresse de plus en plus. Je ne sais pas si c'est un signe, mais voilà, le Seigneur qui revient, le destin qui nous attend et la persécution. Pour toutes les délivrances que le Seigneur nous accorde, nous ne pouvons que dire notre reconnaissance à notre Dieu. Mais pour les délivrances non accordées, nous devons rester, nous devons persévérer, attendre jusqu'au bout. Jusqu'au jour du retour de notre Seigneur. Cela m'amène à ma deuxième remarque sur l'exemple de Job. Jacques rappelle la fin que le Seigneur a accordée à Job, comme un peu une motivation pour tenir bon. Une fin où Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu, même plus, puisque à la fin, il dit, j'ai vu le Seigneur, mon oreille a entendu parler de toi maintenant, mon œil t'a vu. Autrefois, il a juste entendu parler de lui. Je pense voir, vous savez, c'est très compliqué cette histoire de voir, mais en tout cas, il connaît profondément le Seigneur d'une manière en tout cas qu'il ne l'avait pas connu auparavant. Donc, c'est avec même un plus la fin est nettement plus glorieuse que le début. Cela aussi nous rappelle qu'au retour de notre Seigneur, à terme, peut-être à long terme, mais personne ne sait, peut-être à court terme, mais à terme, lors du retour de notre Seigneur, nous serons libérés totalement de toutes nos épreuves, de toutes nos maladies, de toutes nos difficultés. Lors de l'avènement de notre Seigneur, nous serons enfin libres des difficultés de tout genre, libres de la mort, du péché. Comme là encore, je vous renvoie à Évangile 21, dès qu'ils mettent ça sur le site, je vous encourage vivement à l'écouter. Notre frère Henri Blocher a apporté une conférence sur « Enfin libre », libre de tout ce que nous encombre aujourd'hui, nous fait souffrir, le péché, la mort. Nous devons faire donc confiance au Seigneur dans les deux cas, que ce soit à court terme, pour la délivrance présente, si le Seigneur le souhaite, mais nous devons savoir que tôt ou tard, la délivrance arrivera, que ce soit l'épreuve, que l'épreuve soit de la maladie ou que ce soit de la persécution. Le Seigneur interviendra. Et dans tous les cas, nous ne devons pas oublier ce qui est répété à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, mais que Jacques reprend ici pour terminer le verset 11. Le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Il saura toujours nous venir en aide au bon moment. Qu'il nous accorde la délivrance ou qu'il nous donne la force pour patienter jusqu'au bout, il saura nous soutenir parce qu'elle est pleine de compassion et de miséricorde, parce qu'il nous aime et parce que il fait son œuvre en vue de son retour pour une nouvelle ère dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Amen.